France Inter, Ali Badou, le 7-9.
L'invité du grand entretien avec Léa Salamé ce matin, le ministre de la Transition écologique et solidaire. Vos questions sur l'application France Inter et au 01 45 24 7000. Bonjour François de Rugy.
Bonjour.
Et bienvenue monsieur le ministre, nous sommes le 27 février, il va faire 20 degrés à Strasbourg, 25 à Bordeaux, 20 degrés dans la capitale, chaleur et pollution. Et aujourd'hui, pour la première fois depuis le début de l'épisode de pollution qui a commencé la semaine dernière, la circulation différenciée est appliquée dans Paris. Pourquoi avoir tant tardé ?
Alors écoutez, depuis une semaine, hein, puisque ça fait une semaine qu'il y a une montée de la pollution à Paris, nous suivons évidemment de très près. Je vais donner les chiffres hein, simplement. Il y avait 53 mg par mètre cube mercredi dernier. C'est monté à 74 et 71 jeudi. Enfin jeudi c'était 74 et nous avons immédiatement pris la décision de mettre en œuvre les mesures de baisse de la vitesse, les mesures de restriction sur l'industrie et sur le chauffage pour faire baisser la pollution. Et ça a été donc mis en œuvre vendredi et cela a fait baisser samedi et dimanche, on est retombé à 28 et 24 mg par mètre cube. C'est remonté à 40 lundi, on a maintenu les mesures alors qu'on aurait pu dire c'est plus la peine, on est retombé en dessous des seuils, on les a maintenus. Encore 40, entre 40 et 50 hier et malgré le fait qu'on soit en dessous du seuil qui normalement déclenche la circulation alternée, le préfet de police de Paris a décidé de la mettre en œuvre pour aujourd'hui.
Ça fait plusieurs jours qu'Anne Hidalgo, la maire de Paris, réclame la circulation différenciée. Vendredi dernier, elle tweetait déjà « Face au pic de pollution, j'ai proposé hier au service de l'État d'interdire temporairement la circulation des véhicules polluants. Ils ont refusé. Résultat, aujourd'hui, l'air est irrespirable. Il faut des mesures automatiques dès qu'un pic survient. » Est-ce que vous êtes d'accord avec
oui,
ça ou non ?
Mais bien sûr, mais vous savez, moi, quand j'étais député, j'avais fait une proposition de loi, et même si elle n'a pas été adoptée à l'époque, c'est celle que je mets en œuvre en quelque sorte. C'est-à-dire qu'on n'attend pas que le pic de pollution se produise, c'est-à-dire le fameux seuil de 80 qui entraînerait la circulation alternée, pour prendre des mesures.
Et pourquoi quand vous atteignez jeudi ou vendredi 71 ou 74, vous ne mettez pas immédiatement
mais
en place
la circulation ? C'est ce que nous avons fait, nous l'avons fait jeudi.
Pas la circulation différenciée.
Non, parce que le seuil est de 80.
Mais c'est justement ce que personne ne comprend. Au fond, pourquoi attendre d'atteindre le seuil critique pour passer à cette circulation différenciée? Pourquoi ne pas anticiper?
Et alors justement, nous croisons à la fois les données mesurées, qui sont toujours les données du jour, hein, et les prévisions météo. Et on considère, on fait des modélisations, en quelque sorte, c'est-à-dire on essaye de prévoir ce que peut être la pollution de l'air. Je tiens à le dire, mercredi dernier, personne ne l'avait prévu. Personne ne l'avait vu venir et on était déjà à 53 mg par mètre cube, c'est-à-dire le seuil d'information, celui où on doit informer les habitants et commencer à prendre des mesures du type baisse de la vitesse. Vous savez que c'est des mesures qui sont jamais d'ailleurs très populaires, très faciles à faire appliquer, mais baisse de la vitesse à 70 km/h sur tout le réseau routier francilien. Cela a été fait vendredi et ensuite cela a été continué à être appliqué samedi et dimanche, alors qu'on aurait très bien pu dire il y a moins de circulation, c'est plus la peine. Nous l'avons maintenu également lundi et mardi, ce qui a sans doute permis d'éviter d'être, on est resté en dessous de 50. Après, on peut avoir un débat sur les seuils.
Mais c'est ce que j'allais vous dire. Votre avis de ministre et même de citoyen, puisque c'est une question là vraiment qui n'est presque pas politique, puisqu'elle est, elle est essentiellement...
Oui, mais c'est important quand même de garder en tête les chiffres, parce que si on dit simplement l'air est irrespirable, mais qu'on ne parle plus des chiffres, vous savez bien que
mais
ça
justement, ne... justement, vous donnez ça, des chiffres...
À ce moment-là, on ne peut pas prendre de mesures politiques sérieuses.
Oui, mais donc, vous donnez des chiffres qui sont immenses. Je veux dire, 74... C'est
74 mg par mètre cube pour les particules, c'était en effet à la limite du seuil.
Il faut dire que c'est le moment où beaucoup de personnes commencent à avoir des problèmes respiratoires, où les personnes âgées, les enfants sont particulièrement menacés.
Je vous dis, je n'ai jamais minimisé le problème. Quand j'étais député, j'ai souhaité qu'on ait justement cette procédure automatique.
Aujourd'hui que vous êtes ministre, est-ce que vous ne vous dites pas qu'il faut baisser les seuils à 70?
Je pense qu'il faut travailler concrètement avec les élus locaux, pas simplement de Paris, parce que vous savez que ça se pose aussi sur la métropole d'Aix-Marseille, ça se pose dans d'autres villes.
La plus polluée de France.
D'avoir des dispositifs concrets où on sait qui fait quoi. Jusqu'à présent, d'ailleurs, les élus locaux préféraient que ce soit le préfet, parce que les élus locaux ne sont pas toujours d'accord entre eux, qui prennent les mesures et qu'elles aient un caractère sinon automatique, en tout cas qu'on ait un déclenchement anticipé. Mais attention, il faudra assumer que ce soit sur la base de prévisions et non plus simplement de pollution constatée. Or, vous savez comme moi que si certains réclament qu'on en fasse plus, et j'en fais partie, d'autres au contraire disent mais c'est une contrainte insupportable,
mais
on va nous
guérir.
Empêcher de circuler, et pourquoi les voitures qui sont de critères 4, 5, 6, c'est-à-dire les voitures les plus anciennes, donc les voitures les moins chères, donc ça pose un problème économique et social. Voilà, on est toujours dans ce débat-là, c'est pour ça que nous avons mis en place une mesure contractuelle avec 15 agglomérations en France, donc, dont Paris, mais pas uniquement, y compris des agglomérations de taille plus modeste et qui sont volontaires pour mettre en place les zones
vous
à
nous
faible
dites,
émission.
Il faut peut-être changer les choses.
Qui seront mises en place en 2020. En 2020, alors qu'il y a des élections municipales, donc il faudra que les uns et les autres assument devant leurs électeurs qu'on met en place des mesures avec des contraintes lorsqu'il y a des pics de pollution et surtout des mesures de fond qui permettent d'éviter les pics de pollution.
Parlons du fond, justement, l'État français, François de Rugy, devrait être poursuivi en justice pour inaction climatique. Plus de 2 millions de personnes ont signé l'affaire du siècle, cette pétition qui a été mise en ligne par 4 ONG. Et ce soir, vous allez rencontrer non pas ces ONG, mais 100 signataires.
Je les ai déjà
de cette pétition.
Les ONG.
Parce que ce soir, ce sont 100 citoyens que vous avez appelés sur Facebook. Qu'est-ce que vous allez leur dire ?
Alors en fait, il y en aura 175 parce qu'il y a eu 5000 demandes. C'est-à-dire que 5000 personnes ont répondu à mon appel sur Facebook en disant « Oui, nous sommes intéressés d'échanger, de discuter, de proposer au ministre que je suis. Et moi, je suis intéressé que l'on travaille ensemble. » Parce que, évidemment, on pourra parler de ce qui est déjà fait. Ça, c'est important, parce que la France n'est pas à la traîne, elle est plutôt à la pointe du combat sur le climat.
Ces personnes-là ont signé une pétition, ils vont soutenir la démarche de poursuivre donc l'État français. Donc vous avez une responsabilité, c'est qu'ils n'ont pas été convaincus ni par vos explications, et notamment par le fait que la France renonce dans le prochain projet de loi énergie à l'objectif de diviser par 4 les émissions de gaz à effet de serre d'ici 2050.
Vous savez pourquoi ? Pour un objectif de division par 8. Alors là, vous savez, ça, c'est une fausse polémique qui a été montée de toutes pièces par le journal Libération, qui depuis d'ailleurs a reconnu son erreur. Donc là, en l'occurrence, ça, c'est un faux débat et un faux problème. En revanche, moi, je ne veux pas justement, dire « Ah, vous attaquez l'État, donc on ne peut pas discuter ». Au contraire, je trouve, y compris, je vois le bon côté des choses. 2,2 millions de personnes qui ont pris la peine de signer cette pétition, c'est une mobilisation sans précédent, et c'est sur le sujet du climat, donc tant mieux.
Enfin, c'est contre le gouvernement, c'est contre vous.
Attendez. Je devrais donc fermer ma porte et dire « Ah bah puisque vous attaquez le gouvernement, l'État, on ne va pas dialoguer ». Par ailleurs, tout le monde le sait très bien, c'est pas dans les tribunaux qu'on fera baisser les gaz à effet de serre. Donc ça, c'est pas là qu'elle est la solution. Ça, c'est une mobilisation symbolique. D'ailleurs, les associations qui l'ont lancée, on les a reçues avec le Premier ministre. Elles nous ont bien fait comprendre que quoi qu'on leur dise, de toute façon, elles poursuivraient leur action devant le tribunal administratif, puis ensuite devant le Conseil d'État et ainsi de suite. Bon, ça, c'est l'aspect mobilisation médiatico-politique. En revanche, sur le fond, l'action que nous devons mener pour le climat, moi, je crois que le dialogue avec ces citoyens qui ont signé une pétition peut être fructueux. J'ai entendu d'ailleurs ce matin sur votre antenne un jeune ingénieur qui est manifestement un spécialiste de la question, qui dit « Moi, j'ai des propositions à faire sur l'isolation des logements, sur l'urbanisme. Eh bien, discutons-en, mettons-les dans le débat. Nous sommes actuellement dans la phase de grand débat national. C'est des sujets qui sont dans le débat et qu'il faut mettre plus que jamais dans le débat. »
Monsieur le ministre, vous dites que la polémique stérile montée par Libération sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre.
C'est faux.
Mais pourquoi est-ce que vous n'écrivez pas dans la loi qu'il faut diviser par 8?
Mais c'est ce qu'on va faire.
Ça sera écrit noir sur blanc, divisé par 8, l'objectif sera chiffré.
La question, c'est qu'on a parlé de la neutralité carbone, c'est ce qu'il y a dans l'accord de Paris.
Oui, mais c'est ce qu'il y a dans l'accord de Paris de 2015. Que le concept de neutralité carbone,
vous savez ce que c'est?
C'est pas chiffré.
Vous savez ce que c'est?
Oui.
Vous savez ce que c'est? Ça veut dire qu'on ne pourra plus émettre en France, en 2050, plus de gaz à effet de serre, de CO2, que ce que peuvent absorber nos arbres et tous les végétaux de France. Alors, c'est la contrainte maximale. C'est ce que prévoit l'accord de Paris. On met dans la loi ce qui a été adopté à la fin 2015 dans l'accord de Paris. Donc franchement, il n'y a pas besoin de fausses polémiques. Le vrai sujet, il n'est pas là. Le vrai sujet, c'est comment on y arrive.
Oui.
On parle d'état d'urgence climatique. C'est moi qui ai employé cette expression le premier en réponse à la pétition justement. J'ai dit nous sommes en état d'urgence climatique. Mais comme quand on dit qu'on est en état d'urgence pour un problème de sécurité et qu'on dit on va prendre des mesures exceptionnelles, eh bien ça se passe pas facilement parce que ça bouscule des habitudes, parce que ça amène à changer, parce qu'il y a une dose de contrainte évidemment, parce qu'il y a des moyens à mobiliser.
Qu'est-ce qu'on devrait faire plus?
Eh bien, c'est évident. Moi, je suis le premier à le penser qu'il y a d'abord des sujets de comportement. Et donc ça implique les citoyens. Le but, c'est d'entraîner les citoyens. Et encore plus que l'État, c'est les citoyens eux-mêmes qui se mobilisent, comme ceux qu'on a eu dans cette pétition et d'autres, à l'échelle locale, dans les entreprises, dans les collectivités locales, qui font ce mouvement, que ça devient un mouvement général de baisse des gaz à effet de serre. Vous savez bien qu'avant même de changer de voiture, par exemple, pour avoir une voiture qui consomme moins. Ou avant, on peut dire qu'on va faire du covoiturage. On fait du covoiturage, on divise, si on est deux dans une voiture au lieu d'être un,
mais
on divise les gaz à effet de serre par deux.
La pollution, elle n'est pas là, ce n'est pas les citoyens, c'est surtout les entreprises.
Ah mais excusez-moi, dans les émissions de CO2 de la France, non, il faut être précis. Les émissions de CO2 de la France, c'est principalement, premier facteur, les transports. Et dans les transports, c'est les voitures individuelles et les camions. Voilà, c'est ça. Donc si on veut toujours dire c'est les autres, c'est plus loin d'ici et c'est demain, alors on ne fera rien.
Puisque
moi, ma question, c'est la mobilisation générale aujourd'hui.
Mobilisation, aujourd'hui, elle est là, elle
et
est
maintenant.
Aujourd'hui, elle est maintenant. Elle est notamment lancée et par une jeune Suédoise,
oui,
Greta Thunberg,
que nous avons reçue vendredi dernier avec le président de la République.
Exactement. Et donc, elle mobilise des jeunes pour le climat. Une grève mondiale des étudiants, des lycéens, des collégiens est prévue pour le 15 mars prochain. C'est un vendredi. Monsieur le ministre, est-ce que vous leur donnez l'autorisation de sécher aux collégiens et aux lycéens pour aller défiler?
C'est pas un ministre d'appeler à la grève dans les établissements scolaires, évidemment. En revanche, là aussi, on pourrait dire « Ah, oh, mais ce sont des jeunes qui n'y connaissent rien et qui, de quoi ils parlent, c'est une affaire de gens sérieux, le climat, entre des chefs d'État, de gouvernement, des ministres, des conférences internationales, qu'ils retournent dans leur salle de classe travailler. » Nous, nous les avons reçus. Avec le président de la République, c'était
un groupe
d'ailleurs.
Vous ne les avez pas convaincus puisqu'ils maintiennent cet appel à manifester. Vous seriez étudiant, lycéen, est-ce que vous feriez grève tous les vendredis pour protester contre ce gouvernement qui n'en fait pas assez, François de Rugy?
Ça fait quelques années que je ne suis plus lycéen, mais je trouve que le concept de dire une grève pour le climat, c'est original et en soi c'est intéressant parce que vous savez qu'en général les grèves, que ce soit dans les lycées, dans les universités ou dans les entreprises d'ailleurs, c'est plutôt pour évidemment défendre des questions internes, hein, contre une réforme du bac ou contre une réforme de l'université. Donc en soi c'est un sujet d'intérêt général.
Donc
c'est une
sécher.
Mobilisation générale dont nous avons besoin. Mais vous savez, regardez, je ne sais pas pour ceux qui auront l'image, ils le verront, voilà, ça c'est la carte des émissions de CO2 liées à l'électricité en Europe. Et vous voyez que la France est en vert au milieu de la carte européenne. Les autres pays, pour certains, sont en noir. Eh bien, quand nous avons discuté avec ces jeunes, ils étaient les premiers à reconnaître le problème. Il est aux États-Unis avec Trump, il est avec Bolsonaro au Brésil, qui eux veulent carrément dire le dérèglement climatique connaît pas. Les mesures, c'est pas la peine d'en prendre. On a d'autres pays en Europe sur la production d'électricité, par exemple, qui continuent à utiliser massivement le charbon, alors que nous n'avons plus que 4 centrales à charbon et nous allons les fermer dans les 3 ans qui viennent. Mmh. Voilà la mobilisation générale que les jeunes peuvent mener à l'échelle internationale.
Hier, Emmanuel Macron a ouvert la porte à une taxe carbone flottante qui varierait en fonction du cours du baril. Est-ce que vous confirmez que vous travaillez sur cette option ?
Bien, je vous confirme que quand je dis depuis le début de l'année, j'ai commencé dans mes vœux en tant que ministre début janvier, que la question de la fiscalité écologique et notamment, on a dit, le prix du carbone, donc la taxe carbone, elle est en débat. Nous l'avons stopper la trajectoire. Nous l'avons stoppée au 1er janvier alors qu'elle devait progresser. Je rappelle quand même les chiffres. Ce qui devait être imposé sur les carburants, c'était 3 centimes. Hein, 3 centimes d'euros de plus par litre. Quand je dis ça à beaucoup de gens, ils me regardent avec des yeux ronds parce qu'eux, ils croyaient, on leur avait tellement bourré le mou sur le fait que c'était 15 ou 20 centimes à chaque 1er janvier que, ils disent, oui, la taxe carbone, 3 centimes de plus sur le litre de carburant,
d'accord,
égale 2,2 milliards de recettes dans les caisses de l'État.
Il n'en demeure pas moins que vous avez renoncé à la question.
À la hausse.
À la hausse.
Nous avons une taxe carbone en France qui est de 45,5 euros la tonne de carbone, ce qui nous met dans les 3 pays qui ont la taxe carbone la plus élevée d'Europe. Hein,
le
faut
retour
quand même le
d'une
dire.
Forme de TIPP flottante, ce qu'avait mis en place Lionel Jospin. Vous travaillez sur ça, oui ou non?
On va en parler demain après-demain. Nous travaillons concrètement et c'est en débat. Et nous voulons que les Français s'en saisissent. Au-delà de ceux qui, là, pour le coup, font des pétitions ou font des manifestations, il faut que les Français, l'ensemble des Français, s'en saisissent.
De France Inter pour vous poser les questions.
Oui, mais
je veux juste
finir sur ce qu'a dit Léa Salamé. Quelques
là.
Critères simples. Moi, je dis, un, est-ce qu'on garde le même rythme? Hein, je disais 3 centimes d'euros, on peut faire un, on peut faire deux, etc. Ça. Est-ce que l'argent, il va intégralement, l'argent récolté ainsi, il va intégralement vers des travaux d'isolation dans les logements, vers des changements de voitures, vers des investissements pour la transition écologique, pour les transports en commun, par exemple. Ça, c'est une demande que les Français nous ont faite massivement à l'automne dernier. Et puis, en effet, par ailleurs, est-ce que si les prix du pétrole augmentent, c'est de nouveau le cas, là, par exemple, eh bien, il y a une forme de corde de rappel qui permet de dire, ah, on peut stopper rapidement à ce moment-là
la taxe. Donc, c'est très clair. On va reparler de la taxe carbone dans les prochaines semaines.
Vous avez remarqué que médiatiquement, publiquement, il y a une semaine ou il y a 10 jours, tout le monde disait, ah non, c'est fini, le débat est clos, etc.
Le Premier ministre, notamment. Pardonnez-moi, c'est le Premier ministre qui avait...
Non, c'est quelques commentateurs sur la base d'un compte-rendu de Conseil des ministres. Moi, je dis les choses tranquillement. C'est en débat. Ça ne peut pas être imposé comme cela.
Mais
c'est un sujet compliqué. Mais on ne peut pas non plus dire, d'un côté, il faut dépenser plus pour la transition écologique. Et d'un autre côté, dire, tout ce qui est recette, on l'abandonne.
La réponse était claire, Léa ?
Oui, je pense que c'était clair.
On file au standard. Bonjour Didier, question pour François de Rugy.
Oui, bonjour madame, bonjour messieurs.
Bonjour.
Je pense qu'au point où on en est, c'est plus une transition énergétique qu'il faut faire, c'est une révolution énergétique, parce que là on est au pied du mur, c'est une catastrophe. Moi je fais partie d'une commission qui fait des réflexions sur la mobilité, ça va accoucher de petites choses, d'une souris on va dire. Alors que là où j'habite, il y a une route départementale à deux voies. Il y a plein de communes qui se trouvent à environ 25 km de la ville à côté de où je suis, c'est-à-dire la ville d'Angers. La seule réponse actuelle, on va élargir la route en quatre voies pour faciliter les accès des voitures. Je trouve ça déplorable parce qu'on va...
Et on entend votre émotion, François de Rugy.
Alors d'abord sur l'idée de savoir si c'est une révolution énergétique, une révolution écologique plutôt qu'une transition. J'aurais dire pourquoi pas, mais peu importe le terme. Ce qui est sûr, c'est que c'est une transformation massive, majeure. C'est une mobilisation générale d'ailleurs des citoyens, des États, des collectivités locales, des entreprises qu'il faut mener. Ça n'est pas facile, mais il faut le faire. On n'a pas le choix, sinon on subira tous et toutes des conséquences dramatiques liées au dérèglement climatique. Après, je ne connais pas le cas particulier dont veut parler Didier. Ce que je sais, c'est qu'à Angers, par exemple, on peut dire « Ah, la montagne accouche toujours une souris bah, ». À Angers, par exemple, il y a un tramway qui a été fait il y a quelques années, alors qu'avant, il y avait une autoroute qui traversait la ville, qui passait au pied du château. Hein, je connais un petit peu, je suis voisin d'Angers en tant que Nantais. Quand on regarde ce qui se fait dans les villes, dans beaucoup de collectivités locales, on voit que nos villes se sont transformées. Regardez, on parlait de Paris tout à l'heure. Souvenez-vous les polémiques sur les voies sur berge rendues aux piétons. Moi, j'ai toujours soutenu d'ailleurs ce choix. Je ne suis pas d'accord surtout avec Anne Hidalgo, mais enfin, sur ce choix de dire « On réduit la place de la voiture dans nos villes et on développe des services de transport comme les transports en commun. Maintenant, on voit tout un tas de choses, les trottinettes électriques, les vélos en libre service, les voitures en autopartage. Voilà des solutions concrètes. Ce qu'il faut, c'est qu'on ait des solutions qui soient abordables pour les citoyens et qui ne coûtent pas des milliards à chaque fois dans le budget des collectivités publiques, sinon on n'y arrivera pas.
On retourne au standard. Bonjour Benoît.
Bonjour.
Bienvenue sur France Inter.
Bonjour.
Votre question.
Bonjour. Elle est assez simple. Je suis viticulteur et apiculteur dans le sud de l'Hérault. Je suis dans mes vignes en train de tailler en ce moment-là. J'ai mes abeilles qui sortent parce que le printemps est très précoce. Et tous les matins, elles se font doucher au Roundup par mes voisins qui sont en train de désherber. Alors, sachant que je peux pas demander à mes abeilles de pas aller à certains endroits et d'aller à d'autres, tous les matins, elles me ramènent du glyphosate dans mes ruches. Je vais en donner à des amis comme un cadeau qui vont le donner à leurs enfants. Je vais le donner au mien et je ne peux rien faire. Voilà. La question est simple. Je demande à Monsieur le ministre, qu'est-ce que je peux faire ?
François de Rugy.
En tout cas, ce qui est clair, c'est que nous avons agi sur les deux sujets dont vous parlez. Sur les abeilles, vous le savez, on a interdit les fameux néonicotinoïdes, ces insecticides qualifiés de tueurs d'abeilles. Ça avait été voté en 2016, ça a été mis en application en 2018 comme c'était prévu. On a même élargi à la liste, à une liste de produits plus importante. Concernant le glyphosate, on travaille sur la sortie du glyphosate en 3 ans. Et le président de la République, d'ailleurs, a dit samedi matin à l'inauguration du Salon de l'Agriculture, nous pourrions être la première viticulture du monde à être sans glyphosate, zéro glyphosate,
oui, sauf
et
qu'il
ça
y a...
d'ici 2021.
D'accord, mais il y a eu un renoncement, en tout cas une réécriture de la promesse, puisque ça devait être interdit à 100% d'ici 3 ans. Finalement, ce ne sera pas à 100%, ce sera interdit à combien de pourcents, monsieur le ministre ?
Je parle de la viticulture. La viticulture française, ça représente 50% des consommations de glyphosate. Donc déjà, si vous arrêtez le glyphosate totalement dans la viticulture, ça veut dire que vous supprimez 50% des consommations de
combien
glyphosate
il va y avoir
en France.
Combien de dérogations va y avoir ?
Non, mais moi, je veux bien qu'on soit toujours dans la dernière petite marche qui va manquer. On en parle déjà, on est déjà en train de parler de ce qui va se passer en 2021,
c'est pas ça, c'est
que nous, on est dans l'action
aujourd'hui. Vous l'avez promis,
aujourd'hui.
Vous avez dit 100% dans 3 ans.
Oui, mais
alors,
on se donne les moyens.
Il fallait pas le promettre.
Mais si, on se donne les moyens de le faire. On est le seul pays d'Europe qui organise la sortie du glyphosate. Les autres pays d'Europe, les plus ambitieux, ils disaient, on se revoit dans 5 ans. C'est-à-dire fin 2022.
À Benoît.
Par ailleurs, on est en
vous
train
n'avez
de...
Vous n'avez pas répondu à Benoît, François de Régis.
Si, j'ai répondu sur les abeilles et sur la viticulture.
Que peut-il faire?
Ah mais c'est là justement, là pour le coup, chacun est dans son rôle. C'est au pouvoir politique de dire si oui ou non l'utilisation de ces produits est autorisée. Et là, on dit non. Par ailleurs, j'étais au salon de l'agriculture hier, j'ai discuté avec l'ANSES, la fameuse agence de sécurité sanitaire de l'environnement, qui est présente au salon de l'agriculture et qui va faire une étude sur le glyphosate pour que d'ici la fin de 2021, d'ici le rendez-vous européen, on puisse venir avec sur la table des études concrètes sur le fameux caractère cancérigène ou non du glyphosate.
Deux, trois questions sur le grand débat et ses suites, François de Rugy. Le président de la République répondait hier à des élus, il disait que lorsqu'on va le samedi dans des manifestations violentes, on se rend, je cite, complice du pire. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que vous pouvez expliquer cette phrase? Est-ce que ça veut dire que le président dit clairement aux Gilets jaunes, maintenant ça suffit, il faut arrêter de manifester?
Moi, je le dis déjà depuis plusieurs semaines. Les manifestations du samedi doivent s'arrêter. D'abord, on ne voit plus du tout quel but elles ont. Et on voit le résultat. C'est-à-dire, à chaque fois, des dégâts. Il y a de moins en moins de personnes dans ces manifestations. Et il y a de plus en plus de dégâts. Ramenés au nombre de personnes présentes dans les manifestations. Donc oui, c'est le souhait, d'ailleurs, je crois, de la très grande majorité des Français. Ce qui n'était pas forcément le cas il y a quelques mois. Il y a quelques mois, vous aviez une majorité de Français qui était plutôt solidaire de ces manifestations. Aujourd'hui, je crois que chacun peut voir qu'il y a un ras-le-bol par rapport à ces manifestations, à ces dégradations. À chaque samedi, moi j'étais avec des commerçants nantais il y a une semaine, ils me disent, ça fait depuis le mois de novembre, où les transports en commun sont coupés toute l'après-midi du samedi, où les gens du coup n'osent plus venir en centre-ville, du coup on perd de la clientèle, et alors que parfois d'ailleurs il peut très bien ne rien se passer dans certaines rues, il va se passer autre chose dans d'autres rues à côté.
François Donc, il faut savoir si s'arrêter. Si le grand débat devait se conclure par un référendum, quelles questions vous aimeriez?
Je suis pour, moi, pour ma part, je fais partie de ceux qui pensent que c'est important de donner la parole aux Français. Moi, je fais partie de ceux qui ont toujours dit la légitimité, elle est dans les urnes, elle n'est pas sur les ronds-points, elle n'est pas dans les manifestations, elle n'est pas dans la rue. C'est un mode d'expression,
mais
la légitimité, ce qui permet de faire des choses, c'est dans les urnes qu'on le trouve. Et donc, le référendum est un moyen de redonner la parole au peuple français. Bah, vous savez qu'il y a des sujets institutionnels. Bon, là aussi, j'ai fait des propositions. Je dis clairement, c'est des propositions de François de Régis, c'est pas les propositions du gouvernement.
Concours l'épine des ministres, allez-y.
Oh, mais c'est pas, mais attendez.
Non, allez-y, bien sûr.
Fait les propositions, c'est le concours l'épine.
Allez-y,
si
votre proposition, mais c'est la question que vous posez.
Moi, par exemple, vous avez vu que le président de la République a mis dans sa lettre, a posé la question du vote obligatoire et du vote blanc. C'était pas dans son programme. Dans son programme de 2007, ça y était pas. Moi, je peux le dire, parce que je suis pour, mais ça y était pas. Et donc, je trouve que ça, par exemple, c'est un beau sujet. La question de la proportionnelle. Ça fait des mois qu'il y a des forces politiques qui disent c'est l'horreur, la proportionnelle, cette instabilité. D'autres qui disent on n'en fait pas assez. Mais il y a un moment donné, on peut faire trancher par le peuple français. La question de la baisse du nombre de députés et de sénateurs. Là aussi, sujet où on a eu toutes les oppositions contre nous, qui ont sabordé la réforme institutionnelle, qui ont fait une guérilla parlementaire pour faire tomber la réforme institutionnelle. Eh bien, prenons le peuple français comme juge et à un moment donné tranchons par le vote.
Dernière question, c'est celle que vous pose Anne sur l'application France Inter, François de Rugy. Anne qui vous dit, je vous écoute et j'ai une question, à quoi vous servez? À vous entendre, vous ne pouvez rien faire, vous rejetez la faute sur les autres, maire, lobby, citoyens en difficulté financière, etc.
Non mais ça c'est... Bah, qu'elle vienne un jour dans l'une des réunions que j'organise. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut entraîner tout le monde. Je pense que c'est une de mes fonctions d'ailleurs de ministre, évidemment de mobiliser l'État. Et nous le faisons, vous savez, quand on dépense là cette année dans le budget de l'État 7,3 milliards pour le développement des énergies renouvelables, et que j'entends encore, que je lis encore des gens qui disent « Ouais, en France, on fait rien pour les énergies renouvelables. » J'ai des tas de gens qui me tapent dessus d'ailleurs en disant « Ça coûte beaucoup trop cher, c'est de l'argent gaspillé, les éoliennes partout en France, c'est moche, c'est mauvais pour l'environnement. » Et moi, je défends inlassablement, et je ne me contente pas de le défendre là dans votre studio de radio, ça ne prend qu'une toute petite partie de mon temps. Ce que je fais, c'est que je mets les gens au travail pour aboutir sur ces sujets-là. Et donc, évidemment que c'est le rôle d'un ministre que d'être dans l'action, dans la mobilisation, mais aussi de le faire avec d'autres. Si on veut faire croire aux Français que c'est l'État tout seul qui va tout régler, eh bien, on se trompe sur ce sujet comme sur
Vous
d'autres.
Vous trouvez ça injuste, ce genre de question?
Non, mais ce que je trouve pénible, c'est que à la longue, si on dit ça, eh bien, moi, je sais ce qu'on fait. On ne fera rien. Si on dit toujours, il faut renvoyer à plus tard, c'est de la faute des autres. Non, c'est pas les voitures, c'est les avions. Non, c'est pas les avions, c'est les bateaux. Non, c'est pas les bateaux, c'est les camions. Eh bien, on tourne en rond et on ne fait rien. Ou alors les gens qui disent, tant qu'on n'aura pas tout fait, on n'aura rien fait. Eh bien, moi, je sais ce qui se passe dans ces cas-là. On ne fait rien. Les mêmes, ça aboutit au même résultat. Ceux qui vous disent, on ne peut rien faire, c'est trop difficile.
Donc les petits pas, c'est bien.
Ça, c'est Trump aux États-Unis. Non, c'est la ténacité, la persévérance dans l'action.
Bon, merci.
Merci.
C'est très clair.
À vous.
Quelle énergie.
Invitation.
Bonne journée, François de Rugy.
Elle est renouvelable.